أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Et nous avons commencé à parler réellement de plusieurs points et nous sommes arrivés, si le téléspectateur nous suit, et nous sommes arrivés effectivement au stade réellement de l'imamat, et nous allons essayer de parler de l'imamat. Et aujourd'hui, inshallah, concernant l'imamat, nous avons parlé que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui est le principal acteur à ce qui concerne la nomination d'un imam. Et après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler les successeurs. Et effectivement, nous avons essayé de signifier l'imam c'est quoi, la nécessité de l'imam, l'infaillibilité de l'imam. Nous sommes arrivés à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même par l'intermédiaire de son prophète qui nomme l'imam et le successeur du prophète, soit disant khalifa. Et nous avons avancé, si les téléspectateurs ont essayé de nous suivre dans ce cadre, nous avons fait avancer plusieurs argumentations. Ça fait partie de ces arguments et de ces preuves que nous avons dit que dès le premier temps que le prophète, l'avènement de l'islam, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présenta l'islam à sa communauté, la communauté mecquoise, il a essayé d'abord par stratagème, inspiré bien sûr par Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler seulement que les chefs des tribus, enfin réellement de les annoncer cette nouvelle, la bonne nouvelle qui était l'avènement de l'islam. Et effectivement, après avoir annoncé, il dit que je vais annoncer une chose qui est nouvelle pour vous, mais si vous acceptez de moi et répondre réellement à mon appel favorablement, et celui qui répondra à mon appel favorablement, il sera mon héritier, il sera mon khalif, il sera aussi mon lieutenant et mon successeur, etc. Et il a dit plus de trois fois, et c'est Imam Ali alayhi salam, c'est lui seul qui a pu répondre à l'appel du prophète ce jour-là favorablement. Bien sûr, c'était une forme de confirmation, mais en même temps une nomination. Confirmation pour la foi, parce qu'il avait la foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès l'avènement de l'islam, lorsqu'il a appelé lui et Khadija à l'islam, il avait la foi, il a été la première personne homme après d'adhérer réellement à l'islam et accepter l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de mettre tous ces éléments ensemble, vous allez vous trouver qu'il fut nommé depuis ce jour-là comme étant le khalif, comme étant le successeur et le lieutenant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté à ce stade-là. Compte tenu de l'évolution de l'islam, puisque ce n'est pas tout le monde qui a pu témoigner réellement cette annonce-là, donc il fallait répéter l'annonce d'une autre manière. Et c'est ce que vous allez vous rendre compte que, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez les livres des hadiths que nous avons, que ce soit les livres des hadiths sunnites, que ce soit les livres des hadiths de nos livres, qui soient les livres chiites, mes chers frères et sœurs, vous verrez réellement que lorsque le prophète, il trouvait une occasion, comme on le dit dans notre jargon, lorsqu'il trouvait une occasion en or, il profitait de cette occasion réellement d'annoncer la succession d'Imam Ali alayhi salam. Il a dit plusieurs fois, il dit que je vous laisse deux choses précieuses, je vous laisse deux khalifas, je vous laisse. Il a eu à parler de ce hadith avec des contenus bien différents dans des occasions différentes. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de mettre les hadiths l'un à côté de l'autre, vous allez trouver que c'est selon les occasions bien données que les musulmans sont réunis, ils profitent de cette occasion pour annoncer l'imama d'Imam Ali alayhi salam. Donc c'est tout à fait important. Et après cela, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé aussi, il ne s'est pas arrêté là 90 jours selon les historiens, 90 jours avant son décès, il a encore profité d'annoncer, mais dans une occasion encore différente. Cette occasion, c'était quoi? c'était d'abord le pèlerinage de Dieu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il avait dit que non, je n'allais pas faire un autre pèlerinage après ce pèlerinage. Donc il a lancé un appel réellement fort pour tous les musulmans à travers le monde, tous ceux qui pouvaient venir essayer de commémorer réellement, manifester leur foi et commémorer les rites réellement de Hajj. Et ils sont venus dans les différents coins du monde pour pouvoir venir faire le Hajj avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela s'est passé, mais après le Hajj, quand les gens ont voulu se retourner dans leurs demeures différentes, le prophète a fait appel à ces gens-là, qu'il faut de les faire revenir, et ceux qui avaient dévancé les autres pour qu'ils puissent les faire revenir, et ceux qui étaient en route pour qu'ils puissent venir les retrouver à Ghadir Khum, une place réellement précise que Allah subhanahu wa ta'ala peut-être avait donné au prophète Muhammad. Et le prophète profite de cette occasion pour annoncer. Il dit ceci dans son discours qui se trouve dans le livre Muslim Ahmad ibn Hanbal. Vous allez trouver le discours de Ghadir, Hujjat al-Wida, si vous voulez retrouver le discours. Et il essaie de dire que, avec une introduction, il se pourrait que l'an prochain que je ne sois pas avec vous dans ce bas monde. Vous voyez? Donc il a essayé de parler. Il dit, est-ce que j'ai annoncé ce que Dieu m'a demandé d'annoncer? Ils disent oui. Il dit, Allahumma shahad, Seigneur, témoigne ce que je viens de dire. Hein? Témoigne ce que aussi, ce que ma communauté vient de m'affirmer, que j'ai annoncé vraiment la parole. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset Coran, il dit, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbi. Il dit que le prophète, annonce ce qui t'a été révélé. Donc en réalité, c'est comme si rien n'a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant cet événement-là. Alors que nous avons reçu de la part du prophète la révélation, le Coran, et aussi les lois islamiques, etc., etc., aussi les rituels, les prières, etc. Mais comme si Dieu avait conditionné tous ces efforts-là par le dernier effort qu'il devait annoncer, « Balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, fa ma ballaghta risalata. » Si tu n'annonces pas ce message-là, c'est comme si tu n'avais pas annoncé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète qu'il aime tant, et le prophète a essayé de dire que je vous ai annoncé, je vous ai parlé de ceci, est-ce que réellement je vais faire comme Dieu me demande? Mais demandaient, les gens disent que oui, réellement, que vous avez annoncé. Vous avez annoncé, et le prophète revenait sur ça, il disait, Allahumma shahad. Donc, en réalité, lorsqu'il est arrivé encore au sein du discours, il a parlé du discours de Hadith al-Saqalain. Je vous laisse deux choses précieuses, le livre de Dieu et ma famille. Il dit, l'extrémité du corde, de cette corde-là, c'est-à-dire la corde entre Dieu et le monde, ce n'est rien d'autre que la famille et le Coran. Un bout dans la main de Dieu et un bout aussi dans notre propre main. Et nous devons toujours les tirer, nous devons toujours s'accrocher à cette famille-là. Donc, ce n'est rien d'autre que wa'tasimu bihablillah. Hablillah ici, cramponnez-vous sur le corps d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est rien d'autre que mes chers frères et sœurs, que le Coran et la famille. Parce que ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait aucune différence entre le Coran et la famille et sa sainte famille. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, lorsque nous parlons réellement que le prophète, il a pu réellement nommer quelqu'un, différemment des autres qui pensent que le prophète n'a pas nommé un successeur, et nous disons non, le prophète a nommé, il a respecté cette tradition prophétique, et c'est la tradition de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier prophète, c'était de nommer un successeur qui pourrait avoir comme rôle de sauvegarder le message qu'ils ont pu annoncer. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez la biographie de tous ces prophètes, vous allez trouver qu'ils ont essayé de nommer un successeur, un lieutenant, qui aurait effectivement le rôle principal de protéger les enseignements qu'il a pu déployer pendant des années. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'il a pu aussi donner pendant des années. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions réellement faire attention à ces éléments-là. Mais nous avons dit que oui, le prophète a nommé un successeur, dont le successeur réellement, c'était qui et pourquoi alors cette divergence après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si on disait que les disciples avaient renoncé au désir et au conseil, au testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est un testament, lorsqu'on demande après ma mort celui qui doit me succéder, c'est un testament comme si, parce que l'application du testament pour les croyants qui resteront après le défunt, réellement c'est une obligatoire. Donc ici, en réalité, si le testament ne vient pas à l'encontre de l'enseignement islamique et les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous devons forcément l'obéir. Le respecter, et ici c'était sous forme de testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si on disait que les disciples ont désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est réellement, c'est tout à fait, et lorsqu'on dit ça dans un premier temps pour un croyant d'aujourd'hui dans le monde musulman, et vous allez trouver qu'une opposition directe vous dit que les disciples ont respecté les engagements, leurs engagements, ils ont respecté le propos du prophète, alors que le Coran nous dit Ati'ullah wa ati'ur rasoul, respectez les ordres de Dieu et les ordres du prophète. Donc les disciples ont respecté les ordres de Dieu et les ordres du prophète. Mes chers frères et sœurs, il faut comprendre qu'après cette nomination, lorsqu'on parle de nomination, il y a eu plusieurs réactions entre temps. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions revenir certaines choses, que les gens puissent voir. Le fait d'être disciple ne te donne pas aussi cette garantie réellement d'être sauvé et de profiter réellement de la félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucunement. Allah subhanahu wa ta'ala, les lois sont là pour nous, donc les lois sont là pour les disciples. Celui qui respecte ces lois profitera réellement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ne respecte pas les prescriptions du Coran ne pourrait pas quand même effectivement profiter de cette miséricorde. Mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair de pouvoir mieux comprendre que le prophète a nommé. Et les gens se disent que si le prophète a nommé, pourquoi alors les disciples, de façon générale, n'ont pas respecté réellement cet engagement du prophète et les consignes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, il nous faut seulement de revenir dans l'histoire et vérifier la page de l'histoire. Est-ce que réellement les disciples avaient l'habitude de respecter strictement les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Et vous allez dire, mes chers frères et sœurs, j'aurais vous dit non. C'est le Coran qu'on y dit et c'est l'histoire qui témoigne cela. Regardez avec les disciples. Il y a les disciples quand nous sommes en train de parler. Le fait d'être disciple, de profiter, voir le prophète, c'est une bonne occasion pour le musulman, mais il suffit de profiter et de saisir cette occasion et en profiter. C'est pas tout le monde qui a pu saisir cette occasion, le fait de voir le prophète, être à la présence du prophète, faire les batailles avec le prophète et profiter réellement de cette vraiment occasion. Mes chers frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui a pu profiter de cela et vous allez témoigner et cela dans l'histoire et je vais essayer de vous éclaircir point par point. Le premier point, c'est que on sait que les disciples, le mot disciple réellement ne fait pas un être humain sauvé de toutes les tracasseries du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Non, c'est conditionné par la foi et aussi les bonnes œuvres. Lorsqu'on regarde encore les disciples, vous allez trouver que les disciples se divisent en plusieurs catégories. Il y a des disciples qu'on appelle les disciples qui étaient croyants. Ils étaient mukhlis, des fidèles avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avec le prophète quand le prophète était en vie. Et après aussi le prophète, lorsqu'ils ont essayé fidèlement de respecter les engagements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que le Coran nous dit, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Il dit, il y a parmi les croyants des hommes, sadaqu ma ahadu Allah, ils ont respecté strictement l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Il y en a qui sont partis. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ. Il y en a d'autres aussi qui attendent. Réellement, mes chers frères et sœurs, et lorsque vous regardez, il y a eu vraiment des disciples fidèles qui ont respecté seulement quand le prophète était en vie, respecté les engagements du prophète et après aussi les consignes que le prophète a pu donner avant de partir de ce monde, ils ont essayé de respecter ces consignes-là. Il y a cette première catégorie. Il y a la deuxième catégorie, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que les Sahaba, les disciples qui étaient très faibles en foi, vous voyez, et notre, il y a un groupe très fort en foi, mais il y en a qui étaient très faibles en foi. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Coran qui le dit. Inch'Allah, vous allez trouver cela dans le Saint-Coran. Le Coran dit « Ya iwalladina amna malakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhira fama mata'u al hayati dunya fi al-akhira illa qalil » Il dit « Qu'est-ce qui vous arrive lorsqu'on vous appelle « idha qila lakum infiru fi sabilillah » de partir vers la bataille d'Allah subhanahu sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecter l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala istaqaltum, vous devenez très lourd, très paresseux vis-à-vis de l'engagement, de reste dans le respect de l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Araditum bil hayati dunya, vous contentez de ces bas mondes sans pourtant réfléchir et à l'au-delà, hein? Donc ce sont des disciples, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit faites ceci, il devient très lourd, il devient très négligent. Donc, cette négligence, ce n'est rien d'autre, mes chers frères, que le produit d'un manque de foi. Et il y a aussi encore un groupe de disciples, réellement, qui était le groupe des hypocrites parmi les disciples, mes chers frères et sœurs. Et c'est le Coran qui le dit. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ. Il y a autour de toi, il y a des bédouins. De ces bédouins-là sont seulement que, réellement, des hypocrites. Et aussi dans la cité de Madine, il y avait aussi des hypocrites. Les hypocrites, je m'arrête un peu là. Les hypocrites, ce sont des musulmans. Ce sont des gens qui ont accepté l'islam. Ils sont devenus musulmans. Ils étaient avec le prophète. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les disciples. Donc les disciples se divisent en ces trois catégories, mes chers frères et sœurs. Donc lorsqu'on parle de disciples, ils n'essayent pas de sacraliser la chose pour dire que le fait d'être disciple te fait déjà un homme saint, te fait déjà un homme de paradis. Non, mes chers frères et sœurs, il faut travailler « Alladina amanu wa amilu sol » ceux qui ont cru et embrassé la foi avec « La ilaha illallah » pas seulement ça, « Wa amilu sol » pas seulement travailler, mais « As-salihat » des bonnes œuvres avec des bonnes intentions, mes chers frères et sœurs. Il y avait autour du prophète des hypocrites qui vivaient avec lui. Donc, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas surpris. Lorsque nous essayons, c'est l'enseignement du Coran, celui qui vous donne un autre enseignement différemment de ce que nous avons donné, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait faux. Et parce qu'il y a aussi réellement des versets qui parlent des disciples, qui essaie réellement d'attribuer des bonnes choses réellement à certains disciples. Donc, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Il y a des gens, ceux qui ont dévancé la religion musulmane, من المهاجرين, qui sont venus premiers. Ils ont accepté l'islam, ils ont accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, ils sont les ceux-là même qui ont dévancé, les dévanciers as-sabiqoun al-awwalu min al-muhajirin, de ceux qui sont les immigrants de la Mecque vers la Médine, et aussi wal-ansar, ceux qui étaient à Médine, min al-muhajirin. Donc, al-min huna, al-min al-tabi'idiyya. C'est-à-dire, on dit deux, ce n'est pas tous les muhajirin, ce n'est pas tous les ansar, mais c'est deux. Certains parmi eux, vous voyez. Donc c'est tout à fait clair, mes chers frères et sœurs, sur cette question. Nous avons divisé des fidèles, ou puis des disciples croyants, fidèles, des disciples qui étaient très faibles en foi, et il y avait aussi des hypocrites qu'on appelait aussi des disciples. Mes chers frères et sœurs, donc en réalité, lorsqu'on regarde dans ce sens-là, nous allons tous dire que le munafiqoun, les gens vont essayer de dire le munafiqoun, c'est celui-là qui extériorise la mécréance et dévoile la foi et l'islamité. Donc, mes chers frères, lorsque vous regardez cela, s'il intériorise la mécréance, donc, mes chers frères et sœurs, nous allons dire qu'il est mécréant. Non, les musulmans, les munafiqoun n'étaient pas connus dans la société. C'était très difficile. Le Coran même dit la ta'alamu nahnu na'alamu. Il dit que tu ne les connais pas. Il s'est dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Vous voyez? Donc, mes chers frères, ce n'était pas difficile de distinguer réellement un hypocrite, parce qu'il s'agit de son fort intérieur, quelque chose qui est caché dans sa poitrine, qu'on ne peut pas dévoiler, sauf le soutien d'Allah et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela s'est passé, mes chers frères et sœurs, et concernant cela, ils ont parlé que tous ceux, les frères sunnites, ils ont essayé de dire que tous ceux qui ont embrassé la religion musulmane, qui ont accepté l'islam avec la ilaha illallah, donc mourir, il meurt aussi sur cette foi, il est réellement disciple. Donc lorsque vous regardez cette définition, c'est rien d'autre que la définition de Ibn Hajar al-Asqalani, et c'est aujourd'hui que la majorité des musulmans sunnites, ils acceptent cette définition, mes chers frères et sœurs, et cette définition réellement a un problème pour qu'on puisse l'englober et renfermer tous les musulmans, parce que les hypocrites n'étaient pas aussi, parce que ça renferme aussi les hypocrites, parce qu'ils ont accepté l'islam et ils sont morts aussi bien sûr musulmans. Il y a des hypocrites qu'on a pu détecter, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas pu détecter, et Allah subhanahu wa ta'ala seulement pourrait détecter ces hypocrites-là. Donc mes chers frères et sœurs, l'hypocrite ne fait partie des disciples du prophète, et aussi celui-là qui a une très maigre foi fait partie des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez aussi, pour vous dire en quelques mots, ce que le fait de disciples puisse respecter les consignes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Et vous allez trouver dans l'histoire, ça s'est passé dans les livres historiques, que ce soit un livre historique sunnite ou chiite, vous pourrez trouver cela. Il y a le premier lieu que les musulmans, lorsque le prophète demande dans la bataille de Uhud, il a demandé de mettre un stratagème en place. Il a demandé à certains de rester sur la montagne, à certains aussi de combattre au pied de la montagne. Donc cela s'est passé, mais par manque de foi, il y a certains qui n'ont pas respecté ces engagements, ces consignes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement ça, ils ont fui réellement le champ de bataille et laissé le prophète entre les mains des mécréants. Et c'est en cela que le prophète a été blessé. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas respecté dans ce premier lieu la bataille de Uhud. Je demande à tout le monde de faire une révision correcte de la bataille de Uhud et vous allez trouver ce que nous avons dit tout de suite. Il y a aussi sur le Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte de Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah, c'était quand le prophète avait décidé d'aller effectuer le pèlerinage au Umrah avec ses disciples. Donc le petit pèlerinage avec ses disciples, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les mécréants ont refusé à ce qu'ils rentrent à la Mecque pour accomplir les rites du pèlerinage. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voulant signer un pacte avec les mécréants, ils ont signé un pacte dont le prophète a demandé aux disciples réellement de gorger les moutons, de se coiffer, etc., comme ça se passe dans le Hajj. Mais il y en a certains qui ont refusé de le faire, jusqu'à le prophète lui-même, il est sorti, il a égorgé et aussi s'est coiffé devant eux, mes chers frères et sœurs. Et il y en a, après ça, il y en a qui ont accepté, d'autres ont grogné, mais le prophète avait dit auparavant de le faire, ils ne l'ont pas fait. Il y a aussi cela, mes chers frères et sœurs, il y a ce côté aussi, le prophète dans ces derniers jours, il avait demandé aux disciples réellement d'envoyer un papier, un encrier, au pire un bout de papier pour qu'ils puissent écrire « Actu blakum shay al-lanta de l'obadi ». Je peux vous écrire une chose et lorsque vous vous accrochez, respectez cet engagement que je vais vous écrire, vous allez réellement être sauvés. « Lanta de » vous n'allez point égaré après moi. Mais il y en a d'autres qui ont refusé catégoriquement, qui ont dit « Hasbunallah, Kitab Allah, le livre de Dieu nous suffit ». Il y a seulement ça, il y a aussi la jaysh de Usama. Lorsque Usama, le prophète a formé encore dans ces derniers jours une troupe avec Usama à la tête comme étant bien le général de l'armée, et il les a envoyés vers les Romains, mais il y a certains disciples qui ont refusé d'y participer et ils sont partis et s'est retournés après. Donc il y a tout ça, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez cela, vous pouvez trouver que ce n'est rien d'autre que les disciples, le fait d'être disciple ne fait pas de toi un saint, mais ce qui doit vous accompagner, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu, le respect strict des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous allons continuer sur cette allure, Inch'Allah. concernant les disciples et les problèmes qui se sont opposés, inshallah, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, compte tenu de la nomination de son successeur légitime. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.